VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. L'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe s'est vu dérober près $1 million en liquide qu'il gardait dans un attaché case à son domicile, selon de nouveaux chiffres révélés aujourd'hui par le journal d'État du Herald. Robert Mugabe avait déposé cet argent dans sa propriété sans en informer qui que ce soit, a indiqué le parquet. 4 personnes sont poursuivies pour vol, dont Constancia Mugabe, une jeune dame âgée de 50 ans, une parente de l'ancien président. Le nouveau président malgache Andrew Rajoel a présenté hier son premier gouvernement. C'est une équipe de 21 ministres et un secrétaire d'État placé sous le signe de l'austérité.
Le gouvernement est composé de 22 membres au lieu de 30 auparavant. S'est félicité devant la presse le président malgache Ange Rajoel. Cette disposition a été prise dans un objectif d'austérité et de réduction des dépenses publiques, a-t-il ajouté. Il a également exigé des résultats rapides à l'équipe dirigée par le premier ministre Christian Tsay, reconduit dans ses fonctions. D'ici 6 mois, une évaluation sera effectuée et dans 1 an, nous constaterons qui aura réussi à relever les défis et qui aura échoué, a-t-il assuré. Le ministre de l'Intérieur, Tiana Rivelo Razafi Maifa, a été maintenu. Le milliardaire à la tête d'un groupe de médias, Neina Andria Sitoen, a été nommé aux affaires étrangères. Monsieur Rajoel, 44 ans, a remporté l'élection présidentielle du 19 décembre avec 55,66% des suffrages lors du second tour disputé face à Marc Ravalomanan.
En République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi est officiellement devenu hier le 5e président. Il remplace Joseph Kabila au pouvoir depuis 18 ans. C'est la première transmission pacifique du pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1960. Qu'attendent les Congolais eux-mêmes de leur nouveau président ? Commentaire recueilli à Kinshasa après l'investiture de Félix Tshisekedi.
Ce que je peux dire à notre président Félix Tshisekedi, s'il peut améliorer ce que le président sortant n'a pas pu réaliser, c'est que je vais lui demander d'améliorer, surtout la sociale, les emplois, l'économie. Notre économie est vraiment trop bas. Donc s'il peut relever notre économie, et surtout, je parle plus de social, ça sera mieux.
Vraiment qu'avec ce nouveau président, que nous puissions avoir, comme il l'a bien dit d'ailleurs dans son discours, il faut que nous ayons, chaque Congolais ait une carte d'identité. Il faut que chaque Congolais, et le Congolais retrouve sa valeur. Donc quand nous voyons par exemple cette étape-là de Mobutu, nous avons dit que nous voyons que les Congolais étaient quand même respectueux, que ce soit ici en Afrique qu'à l'étranger. Donc nous voulons que cette valeur-là revienne parfaitement à tout citoyen là-dedans du Congo.
Tellement ils donnent du travail, le Congo change. Donc le Congo émergent comment ? Le Congo change, c'est ça, c'est moi qui l'attends. Nous, en tant que femmes, tu as le demandé d'abord. Donc c'est beaucoup de choses, hein. C'est beaucoup de choses pour la femme. Qu'il nous met à l'aise seulement, en tant que femmes, la sécurité dans notre pays.
Nous voulons un changement vraiment qui sera visible. Nous ne voulons pas que les changements soient sur les plans théoriques. Nous voulons vraiment que le peuple congolais puisse vivre ces 10 changements. Par exemple, sur le plan social, sur le plan sécuritaire. Nous voulons qu'il puisse changer les choses de façon que même la guerre qui se passe à l'Est puisse terminer. Nous voulons qu'il y ait des emplois, en tout cas. Nous voulons que les Congolais soient respectés et qu'il n'y ait pas de tracasseries que nous sommes en train de vivre par rapport même à notre police.
Nous voulons un changement sur le plan social. C'est ce que nous déplorons tous comme Congolais. Nous souffrons. Voyez-moi par exemple, je vais à Kinkol, je ne sais pas, je vais arriver à quelle heure. Sur le plan social, si on aménageait, on voit les fonctionnaires tels qu'ils souffrent là, on améliore tout ce qu'il y a comme condition, nous serions très très contents.
Des Quinois après l'investiture de leur président hier. Au Soudan, un manifestant a été tué lors d'un rassemblement jeudi à Omdurman, ville jumelle de Khartoum. Eric Manirakiza.
Un manifestant est mort à Omdurman, a dit lors d'une conférence de presse Amer Ibrahim, chef d'une commission du parquet et chargé d'enquêter sur les violences. Il n'a pas précisé les circonstances exactes de la mort de ce manifestant. Il a ajouté qu'un autre manifestant blessé le 13 janvier à Khartoum avait succombé sans autre précision. Selon lui, 29 personnes sont mortes lors des manifs déclenchées le 19 décembre par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain. Hier encore, plusieurs manifestations contre le président Omar El-Béchir ont été dispersées au gaz lacrymogène dans différentes villes du Soudan, dont une tentative de marche vers la présidence à Khartoum.
La crise dans les régions anglophones du Cameroun où des séparatistes combattent l'armée depuis fin 2017 ainsi que le conflit contre le groupe djihadiste Boko Haram dans le nord du pays ont causé une augmentation drastique des besoins humanitaires, a alerté hier l'ONU. L'ONU a estimé à environ 4,3 millions le nombre de personnes ayant besoin d'une assistance vitale au Cameroun. Sur place, les autorités multiplient les appels pour que les séparatistes de ces régions déposent les armes, mais les affrontements s'y poursuivent. Lionel Gaïma.
Une dizaine d'enfants va chercher de l'eau tôt le matin à Yaoundé. Gwendoline Dom, une femme de 45 ans, les a accueillis il y a quelques semaines après leur fuite de Mbengui, son village natal en zone anglophone. Beaucoup ont dû marcher pendant des jours dans la brousse pour échapper aux affrontements entre les forces de sécurité et les séparatistes anglophones. Certains enfants n'ont pas pu retrouver leurs parents et Madame Dom ne voulait pas les laisser vivre dans la rue. Mais le fardeau devient pesant.
Je ne peux plus payer les factures d'eau et d'électricité, ni acheter du poulet, de la viande ou du poisson. Un sac de riz de 50 kg dure à peine 2 semaines, car ils ne mangent que du riz au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner.
Le gouvernement camerounais a déclaré cette semaine qu'il venait en aide plus de 60 000 personnes déplacées des régions anglophones du nord-ouest et sud-ouest. Les Nations Unies estiment leur nombre total à plus de 430 000. Les autorités disent ne pas pouvoir atteindre la plupart des déplacés car beaucoup ont fui vers des zones reculées ou sont prises au piège de combat. La plupart des aides sont donc limitées aux zones contrôlées par le gouvernement.
We pray, oh Jehovah, whatever we will give them.
Une femme prie pour la paix alors qu'une centaine de déplacés aident l'ONG La Voix des Sans-Voix à collecter des dons de nourriture ou des vêtements. Christian Chindongong de l'ONG La Voix des Sans-Voix.
Le gouvernement doit écouter les gens, organiser un dialogue, je veux dire un dialogue inclusif, afin que nous puissions voir la fin de cette affaire. Parce que peu importe ce que nous donnons aux gens, cela ne pourra jamais les rendre heureux. Le seul bonheur que ces personnes peuvent avoir est de voir à nouveau leur maison.
Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, a fait savoir que les centres de réhabilitation ont été ouverts pour les séparatistes qui acceptent de se désarmer.
Nous devons respecter les instructions du président Paul Biya selon lesquelles, lorsque vous déposez les armes, vous êtes conduit dans des centres, vous bénéficiez de soins de santé, vous avez des psychologues pour vous aider et nous avons ces centres.
Mais jusqu'à présent, aucun rebelle n'a accepté l'offre. Les centres de rééducation de Buéa, en zone anglophone, et de Yaoundé, la capitale, restent donc vides. Dans une interview accordée à la VOA, le combattant séparatiste Edouard Ngafin, qui a refusé de dire où il se trouvait, a décrit ses centres comme un piège.
Je n'irai pas dans un centre de réhabilitation du gouvernement et ne dirai jamais à un combattant séparatiste d'écouter les promesses du gouvernement camerounais qui persécute les anglophones et qui vient subitement prétendre s'en soucier et chercher à récupérer tout le monde.
Le conflit dans les zones anglophones a éclaté en 2017 lorsque les manifestants sont descendus dans la rue pour dénoncer la domination francophone. Certains ont pris les armes et ont autoproclamé une nation indépendante appelée Ambazonie. Le président Biya a envoyé l'armée sur place et s'est engagé à écraser tous ceux qui refusent de désarmer car selon lui, l'unité du pays n'est pas négociable.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, un plan proposé par Donald Trump et une contre-proposition démocrate pour sortir de l'impasse budgétaire ne sont pas parvenus à réunir suffisamment de voix au Sénat. Les négociations achoppent sur le mur que Donald Trump veut construire à la frontière avec le Mexique pour lutter contre l'immigration clandestine. Après de longues semaines de surplace donc, les négociations ont finalement repris entre démocrates et républicains et devraient se poursuivre aujourd'hui afin de trouver une solution temporaire au shutdown le plus long de l'histoire américaine. Le bras de fer diplomatique se poursuit entre Washington et Nicolas Maduro, qui a reçu le soutien de l'armée vénézuélienne et a accusé les États-Unis d'inciter l'opposant Juan Guaido, autoproclamé président, à perpétrer un coup d'État. Caracas avait déjà annoncé la rupture des relations diplomatiques avec Washington, donnant 72 heures aux représentants américains pour quitter le pays. Mais le secrétaire d'État, Mike Pompeo, avait répondu que Nicolas Maduro n'avait plus l'autorité légale pour prendre de telles décisions. Les États-Unis ont toutefois ordonné jeudi le départ du personnel non essentiel de leur mission diplomatique au Venezuela. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francisque. Bon après-midi et bon week-end à tous.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.